France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On a pu redécouvrir, pour combien de temps, un auteur étonnant, celui de Rue des Maléfices, chronique secrète d'une ville, publiée chez Phébus Libretto. On ne sait pas grand-chose de Jacques Yonnet, l'auteur de ce récit magique du Paris du 5e arrondissement et encore d'une partie vers la Seine de cet arrondissement. Heureusement, il y a les archives radiophoniques et l'on peut ainsi en savoir plus. Suite et fin d'une série, commencée la nuit dernière, consacrée à Jacques Yonnet, un homme en liberté. Première diffusion, été 1963.
Lucien Farnoux-Reynaud présente Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Cinquième émission.
Avant la guerre, que tu prévoyais des temps autour de l'Allemagne, se situe ton expérience communiste, mais ne fut-elle pas suscitée par ce voyage outre-Rhin?
Notre aventure allemande n'avait duré que peu de jours, juste le temps de discerner la puérilité incroyable de ce qui constituait le phénomène nazi. À Paris, nous nous sommes dispersés, sûrs de la conflagration qui se préparait, inquiets, coupables. Coupable de ne pas savoir comment informer le monde de ce qui se passait vraiment dans le Troisième Reich. Les responsables allemands avaient parfaitement conscience de la folie d'Hitler, nous en étions persuadés.
Cette conviction inspire certainement à ta jeunesse une attitude plus qu'une opinion, mais laquelle ?
J'ai calqué mon attitude sur celle de milliers de gens de l'époque. J'ai décidé de devenir non plus auditeur à l'université ouvrière, où l'on s'ennuyait ferme, mais militant communiste, militant de base, comme on disait.
Cela relève surtout de l'esprit de contradiction, pas fasciste, mais communiste, ou inversement. As-tu une meilleure raison de proposer ?
Ce que j'avais vu de l'Allemagne était un vaste chantier où l'on travaillait pour détruire. Ça sautait aux yeux. Alors qu'en URSS, en URSS, on tapait dans le dur, on construisait vraiment. Et l'attrait de la Russie, tellement mystérieuse, vantée, décriée, chansonnée, ce caractère trouble, brumeux de ce que l'on en savait...
Un Américain... a écrit « Il n'y a pas de connaissance de la Russie, il y a seulement divers degrés d'ignorance. »
Des milliers de braves types s'étaient construits un univers à la mesure, à l'image de leur bonne volonté, de leur générosité. Tout ce qu'on avait de sens du civisme était reporté sur l'URSS. Mot tabou, le paradis en cours d'achèvement où rien ne pouvait se passer que d'exemplaires. Et puis, à l'intérieur des cellules, plus de complexe, français, étrangers, apatrides, tout le monde se trouvait sur un pied d'égalité absolue. C'était confiant, c'était fraternel, c'était pur. Moi, le militant de base, je voguais en eau claire.
Mais enfin, tu portais en toi un savoir, une culture, un dynamisme assez peu commun. Es-tu bien sûr d'avoir pas nourri alors certaines ambitions ?
J'en ai encore, dans beaucoup de domaines, mais sûrement pas politique. D'ailleurs, la structure interne du parti, avec un grand P, est admirablement conçue pour démasquer, pour décourager, pour écarter les ambitieux trop pressés. Les ratés trop malins n'ont jamais réussi dans le parti à épater le monde. Les éducateurs marxistes, eux, constituent un clan, une race à part dans le parti. Signe particulier, très ombrageux, très susceptible et absolument dépourvu du sens de l'humour. J'en ai cependant connu un qui était rigolo. C'était le fameux Rapoport, resté célèbre à cause de sa barbe, de sa crasse incroyable et de ses connaissances, vraiment très vastes. Il trouvait moyen d'être gay en donnant des cours d'économie politique dans un ancien couvent de la rue des Carmes, coin de la rue Lanneau, là où maintenant on danse le twist.
Et ces cours, les suivais-tu assidûment ?
Mais non, pas le temps. Fallait militer à la base. Pas une soirée libre, pas un instant de loisir. Meeting, réunion de cellules, de rayons, d'informations, défilés, paperasse, paperasse tout le temps, paperasse partout, à tous les échelons. Ah, les pauvres dimanches où il fallait se méfier des individualistes qui s'en allaient prendre un bol d'air, peinards avec leur petit ami, sans se soucier des paperasses, justement. Pour moi, ça n'a pas duré longtemps.
Il me semble que si tu avais la foi, tu n'étais pas très bien accroché.
J'essayais de me convaincre que j'étais un convaincu. Pourtant, une fois, j'ai failli devenir, bien malgré moi, orateur de choc. c'était près du Père Lachaise, une manif de masse où toute la gauche était représentée. Un type pressé, infatigable, accompagné de 4 jeunes copains, fendait la foule des militants, installait un escabeau qu'il portait sur l'épaule, montait dessus, gesticulait, faisait un discours qu'on n'entendait pas. Les gens l'acclamaient en hurlant. Il descendait, repliait son bidule, recommençait 50 mètres plus loin. Ah ! Les copains déployaient une pancarte. J-E-U-N-E-S. Jeunes équipes unies pour une nouvelle économie sociale. Rien que ça. Le gars, c'était Jean Nocher. Oui, oui, le même, le nôtre. Alors, j'ai fait une farce. Jean Nocher était parti boire un demi. J'ai envahi son escabeau et j'ai déclamé les bribes d'un monologue idiot, fin de siècle, découvert dans les archives de mon père. « Ventre Saint-Gris !» s'écria Henri IV, qui du haut de son piédestal prenait un mélécosse avec l'éléphant du roi de Siam. Va falloir en découdre. C'est alors que Charles IX, suivi de ses pages et de Louise Michel, se mit à la poursuite des hérétiques en criant « Mort-moi le bois !» Un succès bœuf. Et les gens qui criaient « Les Saviers, partout !» Mais il y avait les membres du comité central qui m'avaient repéré. « Tu dois connaître un bout sur Louise Michel. T'as de l'étoffe. Faut prendre des cours d'orateur, tu deviendras quelqu'un. »
Mais dans quelles conditions as-tu accompli ton voyage en Union soviétique ?
Encore un canular. Je voulais solliciter un sursis pour être convoqué le plus tard possible au service militaire. J'ai sauté sur l'occasion qui se présentait de me joindre à un groupe en partance pour Moscou. 30 heures dans le même wagon. Pas le droit d'en sortir pendant les haltes en Allemagne. Nous étions des pestiférés. Les métallos et le couple d'Auvergnats qui m'accompagnaient pestaient parce qu'ils avaient épuisé leur provision de pinards. En Pologne, on nous a vendu très cher une sorte de bière affreuse. Ça nous a fait le même effet que le mal de mer à Robert Lamoureux. C'est dans ces conditions que nous avons arrosé notre entrée en territoire soviétique. À la gare frontière, Niegorolloye, nous avions été reçus par des policiers, des douaniers et des figurants. 3 ou 4 tartares à cheval avec des lances, comme au Châtelet dans Michel Strogoff. Ça avait grande allure. L'un de nos métallos a été pris d'une crise de ferveur mystique. Il est sorti du wagon, il a embrassé la terre. Nous étions gênés, les Russes aussi. Ils se regardaient avec une sorte de surprise où il y avait de la compassion, peut-être du mépris. Ce serait trop long de raconter ici comment, à Smolensk, nous avons été pris en charge par un guide et commissaire politique sur les bords qui parlait un français pas mauvais du tout, avec un accent que je ne saurais pas définir, mais sûrement pas russe. Il était là pour nous renseigner, mais c'est lui qui nous posait des tas de questions, pas embarrassantes le moins du monde, sur la vie qu'on mène en France. Quand nous avions l'air assez satisfaits, par exemple, du métro ou du réseau routier chez nous, il avait un sourire apitoyé qui voulait dire « Vous fatiguez pas, je n'en crois rien. » Et ça nous énervait. Il y a encore ce phénomène très spécial qu'il nous faut avoir observé sur place. Moi, je l'ai éprouvé encore beaucoup plus tard dans l'armée. C'est la désarmante, la désespérante torpeur russe. Le renoncement, l'anti-énergie, dans ce qu'elle représente de plus débilitant. Le je m'en foutisme de l'être humain à son propre égard, à celui de son destin, le Nietzschevo. C'est là que j'ai hasardé un commencement d'explication au problème Ansel.
Ansel ? Mais qui encore ?
Un garçon de 28 ans à l'époque, membre du comité central des jeunesses communistes. Un métallo devenu permanent du parti. Brave type, dynamique, pas bête, compréhensif. Cours de cadre à Moscou, il nous revient après 8 mois. Transformé, un dogmatique, serré, impitoyable, imbuvable. À la fois passif, féroce s'il avait pu l'être. Soumis et autoritaire. Et lointain, jusqu'aux bornes du cynisme. Je pense à une transformation physiologique accomplie chez lui et chez d'autres, comme Raymond Latargette. Je ne saurais jamais par quel moyen.
Ce que tu dis là devient une accusation à peine voilée. Sais-tu que c'est très grave ?
J'y peux rien. Plus j'y pense, et moins je n'ai le goût de revenir sur mes propos. D'ailleurs, j'ai maintenant la certitude qu'à l'heure où nous parlons, on se sert dans le monde de moyens artificiels pour transformer non un homme, mais la personne humaine. Je voulais dire encore qu'avant notre arrivée à Moscou, on a adjoint à notre groupement déjà amenuisé 6 jeunes anglaises qui se foutaient formidablement de tout ce qui ne concernait pas les compétitions sportives. Alors, je suis devenu interprète. Les Russes parlent beaucoup plus volontiers français qu'anglais, et c'est ainsi que nous nous sommes régalés du grand événement, la réception au Kremlin. On nous a montré Staline plutôt qu'on ne nous a montré à lui. De ses voisins, nous n'avons pu identifier que Kaganovitch et Orjonikidze. À ce moment-là, le petit père Joseph était à peine poivre et sel. Il nous a adressé, en bon papa, sensiblement le même discours qu'Hitler. Fallait pas se mouiller. La banalité affligeante, c'est aussi une langue diplomatique. Mais ce qui m'a frappé, de la part de Staline et de son entourage, c'est cette froideur de roc, proprement inhumaine, qui émanait de tout ce qui les touchait. Différence fondamentale d'avec les Allemands. Chez Hitler, des câblots, absurdes, superficiels. Les Russes, inertie mentale, du moins apparente. Mais la machine, froide, impersonnelle, implacable, et qui ne porte pas en soi le germe de sa propre destruction.
Mais connais-tu à l'époque tiré parti immédiat de telles observations ?
Dès mon retour à Paris, j'aurais pu faire publier une relation inévitablement tendancieuse de mon voyage. Par scrupule, n'en ai rien fait. J'avais lu, avant et après ce périple, tant et tant de choses monstrueusement absurdes au sujet des problèmes qui me sollicitaient, j'ai décidé de lancer un énorme canular.
Encore fallait-il que l'occasion se présentât.
Ça se passait en octobre 36. La guerre d'Espagne était déclenchée depuis juillet. Moi, j'étais allé à Saint-Sébastien juste voir ce qui se passait. Quelle pagaille! J'étais redevenu coiffeur à Auteuil. Une de mes clientes, jeune fille prolongée, qui écrivait et qui écrit encore des contes pour la semaine de Suzette et des romans moraux pour les éditions Taillandier, s'intéressait à ma connaissance de l'infrastructure du parti et des jeunesses communistes. Elle était d'une naïveté bien compréhensible à cause de son milieu. Elle mordait à tout, à tel point qu'un jour je lui dis « Maintenant, il faut casser le morceau. Si vous êtes d'accord, je me mets tout de suite à rédiger une suite d'articles où je livre tout ce que je sais sur l'activité des jeunesses communistes en France. Vous verrez, ça prend de ses boum. À vous de découvrir la tribune. » Et là, chez elle, dans l'appartement cossu et provincial qu'elle avait, ménagé une entrevue entre moi et Pierre-Antoine Cousteau qui tenait la page russe à Je suis partout, dont il devait plus tard devenir directeur et qui collaborait au journal et à Candide de la famille Fayard avec Pierre Gaxotte et Léon Daudet comme pontife maison. Je raconte à Cousteau ma salade. Lui, un type intelligent et lui-même mystificateur, au courant de toutes les ficelles de son métier, Cousteau, qui avait nommé Herriot colonel honoraire de l'armée rouge, avait mille raisons de flairer la farce ou l'imposture. Incroyable! Le jeudi 22 octobre, je prends le métro, j'achète Candide en première page, sur quatre colonnes, sur toute la seconde page, ma prose. On n'avait pas coupé une virgule. Titre « La fabrique des enfants rouges », révélation sur l'activité des jeunesses communistes en France, etc. Avec un chapeau délirant rédigé par la direction du journal. J'ajoute que je n'avais mis le Parti communiste au courant de ma décision de mener le canular jusqu'au bout qu'au moment où il n'y avait plus rien à faire pour arrêter la parution de l'article. Personne parmi les camarades, avec un grand C, n'avait compris grand-chose à ma farce, dont voici la clé. J'avais mis en scène des personnages imaginaires que j'accusais de tous les forfaits les plus invraisemblables, mais dont les noms, tous les noms, correspondaient à des anagrammes très transparents. Des demi-dieux de l'Olympe, Tarcos et Xulpo, c'était Castor et Pollux. Le trésorier Nicolai Lefalme, c'est Nicolas Flamel, l'alchimiste. Le Fésor d'or, Icole, c'est Clio, Hylette, c'est Tali. Mervine, c'est Minèvre, j'y étais allé de mes neuf muses. Meiomac et Lailutl, c'est Camomille et Tilleul. Comme ça, Sinon de Tisane, Crimias, le chef. C'est Casimir, surnom à l'époque du colonel de Larocque, gros barouf dans le parti, où on me reproche d'avoir agi en anarchiste. Moi, je me marrais. Course de vitesse dans la presse de gauche, tout le monde étant désireux de casser le morceau en premier lieu. L'Humanité met tout le monde d'accord en publiant un article ridicule qui a stoppé de justesse, et combien je le regrette, mon second papier dans Candide, beaucoup plus fumant que le premier, beaucoup plus énorme. Consternation à vendredi, où André Wurmser, Philippe Diollet, André Chanson et Jean Guéhenno avaient préparé, dans un bistrot sombre où ils buvaient du tilleul, la maquette d'un numéro spécial qui dénoncerait les mensonges outranciers de la presse de droite. Dans les jours qui ont suivi, chacun a tiré sa petite conclusion de ma farce. Sur les murs, partout dans Paris et en banlieue, d'immenses affiches jaunes et noires. Candide, mystifié par un gavroche parisien. Dorgelès qui tire son chapeau au gars qui a enfoncé l'histoire des Gésipes Simon. De Kérilis, qui joue fair play et qui écrit « Voilà sans aucun doute la plus formidable mystification journalistique de l'histoire littéraire. Galtier-Boissière dans Le Canard, Vaillant Couturier dans L'Humain et Cachin qui revient à la charge, c'est Molière et c'est Rabelais, c'est la gouaille persifleuse de Gavroche. »
Ce canular aura eu pour toi de nombreuses conséquences. Il t'écarte simultanément des salons mondains de coiffure et de la révolution prolétarienne. Mais je te laisse le soin de narrer dans les prochaines émissions comment et pourquoi il te sauva la vie à toi et à d'autres.
Lucien Farnoux-Reynaud vous a présenté Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Prise de son Serge Métifio. Collaboration technique, Daniel Raffi. Assistant de production, Jean-Pierre Pinet. Lucien Farnoux-Reynaud présente Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Sixième émission.
Nous avons laissé Jacques Yonnet à la découverte des régimes totalitaires. Il découvrit surtout que ce sont des régimes de médiocrité. Turbulent dans la paix, que va faire notre homme dans la guerre? Car la guerre a été pour lui, et plus que pour beaucoup de sa génération, le grand événement révélateur. Et nous parvenons à cette période.
Dès ma première incorporation, je m'étais arrangé pour gagner du temps, je me suis inscrit tout de suite au peloton d'élèves officiers de réserve, EOER. Mais j'avais appris que chaque élève officier avait fait l'objet d'une demande d'enquête auprès de la police ou de la gendarmerie. Chez moi, à Paris, je ne pouvais pas ne pas avoir été repéré comme militant communiste. Je ne me souciais pas d'être inscrit sur les fameuses listes PR, Parti Rouge. J'ai pris mes précautions, volé chez le vague-mestre, dès son arrivée, le document qui me concernait. J'avais tout pour plaire, tout juste si j'étais pas espion russe. J'ai détruit le truc, appris par cœur une brochure volée elle aussi, qui traînait chez le toubib. Le simulateur devant l'expert ophtalmologiste. Ça n'a pas traîné. Ma vue a baissé très vite, et à Nancy, on m'a réformé pour un an, à cause d'amoroses persistantes. Alors je suis revenu à Paris, à Moroso.
Et quel métier avais-tu prétendu exercer dans le civil? Pas quoi faire pour dame, je suppose.
Oh, certes non. Je m'étais inscrit comme musicien, et pour mon adjudant, je jouais du métronome à pavillon. Un métronomiste, on n'en voit pas souvent, ça pose un homme.
Alors, qu'as-tu fait à Paris?
Jusqu'à novembre 38, je me suis offert une année époustouflante. Contrebandier sans le savoir. J'étais engagé comme démonstrateur itinérant pour le compte d'une maison lyonnaise qui fabriquait et vendait du matériel pour l'ondulation indéfrisable. Ce qui m'étonnait était la quantité d'appareils que nous exportions à destination de l'Amérique depuis Le Havre. Ces objets, qui étaient cubiques et ressemblaient extérieurement à des engins très compliqués, étaient vides, à part un thermostat. Aux escales que les navires effectuaient à Cuba, on y enfournait des serpents vivants, roses, verts, bleus turquoise, très venimeux, et interdits, comme tout animal vivant, aux USA. Et ni vu ni connu, dès que débarquaient à New York, la communauté des Arméniens maroquiniers de la ville les prenait en charge. Les serpents, il fallait les traiter tout vifs, étaient transformés en sacs à main, chaussures de dame, paires de gants, même des colliers et des bracelets.
Où étais-tu à l'approche de la guerre?
À Paris, à la caserne de Rilly.
Et qu'est-ce que tu faisais?
Des canulars! J'étais toujours deuxième classe, mais toujours élève officier, nommé secrétaire, dessinateur, cartographe et interprète sur les bords.
Interprète? Mais je ne comprends pas bien. Vous aviez des étrangers dans le régiment de Paris?
Des étrangers, non! J'étais interprète auprès des interprètes de l'amiral Yamamoto, venu en visite.
Mais tu ne parles pas japonais?
Non, bien sûr. Nous nous sommes exprimés en anglais. L'amiral est venu, accompagné de deux de ses congénères, et d'un monsieur très pressé, très impatient, supérieurement ennuyé, qui se nommait Édouard Daladier. Avec notre colonel et son adjoint, ils ont échangé des propos d'une banalité incroyable. Pendant ce temps-là, l'un des Japonais interviewait discrètement l'un de mes copains, un gros rigolard de secrétaire nommé Chalois. « Comment prononce-t-on en français quelque chose comme « Soyez remercié au septième degré »« Reconnaissance éternelle, votre postérité bénie des dieux » Chalois avait répondu « Va te faire foutre ». Toujours discrètement, l'amiral l'a prononcé. Toujours discrètement, l'amiral a procédé à une répétition rapide et au moment des adieux, il s'est plié à angle droit devant nos deux colonels. « Va te faire foutre ». Le père Rocher est devenu violet, il a gardé son sang-froid. « Va te faire foutre à vous ! Va te faire foutre infiniment !» L'actuel général Risse s'est redressé de ses 2 mètres et il a tonitrué avec sa voix de commandement. « Allez vous faire voir !»
Joli. Mais raconte-nous tes autres canulars qui sont audibles à la radio.
Première histoire, l'un de mes oncles, médecin à Bordeaux, possédait une importante collection de dessins d'aliénés. J'avais imaginé de la lui emprunter pour organiser une exposition à la librairie de la Pléiade dans le haut du Boulmiche. Mais mon oncle, il me connaissait, refuse de me prêter sa collection. Alors je demande à tous les copains de me faire des dessins de fous. Les gars se sont surpassés en se défoulant. Gros succès de l'exposition, mais fallait trouver un commandateur respectable et fondé en psychiatrie. Alors, j'ai trouvé sur les quais un répertoire, un dictionnaire des maladies mentales classées vers 1880. Et nous avons taxé les auteurs de nos dessins de faux fous, au hasard, aux doigts mouillés, de n'importe quelles affections mentales. Après, j'ai dégoté une vieille connaissance, un type extravagant, membre du Parti communiste et correspondant pour la France des Isvestia, nommé Berthold Friedl, juif russo-allemand. Il collectionnait les doctorats de tout ce qu'on veut, surtout de philosophie et de psychopathologie. De bonne foi, il a commenté avec beaucoup de pertinence les dessins encadrés et exposés. Il a découvert qu'ils étaient on ne peut plus représentatifs des anomalies psychiques dont souffraient leurs auteurs. L'exposition a eu ici, dans toute la presse, un tel succès qu'au moment de la guerre et de la fermeture des frontières, les tableaux de détraqués se trouvaient à Genève, ensuite à Lausanne, toujours accompagnés de leur convoyeur conférencier, lequel a suivi son exposition jusqu'en Amérique, où il s'est engagé dès la déclaration de guerre des USA. Il s'est couvert de gloire au Japon, il est devenu vétéran de l'armée ricaine, professeur à Saint-Louis dans le Missouri et spécialiste auprès de l'ONU des relations russo-ricaines. Nous nous sommes revus à Paris en 1945, tous les deux officiers, lui major, commandant des forces United States, devenu héros américain à cause de ma mystification. L'autre histoire, qui a fait du bruit, elle a eu moins de prolongement, est celle du faux général du 13 juillet 1939. À Reuilly, nous avions reçu, en prévision de la fameuse revue du 14 juillet, un contingent de légionnaires venu tout droit de Belle Abbesse. J'ai été chargé de faire au général Rollet, commandant la Légion, les honneurs de l'appartement du colonel, qui lui déjeunait à l'Élysée avec le président Lebrun. Le petit père Rollet, malin, barbu, boucané, change de tenue. Il laisse au porte-manteau son costume de voyage et un képi. Or, il y avait au quartier un breton, quelque peu arriéré, le soldat Ledu, qui ne parvenait jamais à sortir en ville au quartier libre. Question de lacets mal noués, de boutons, de chaussures pas cirées. « Je vais chercher le gars Ledu. Ce soir, tu pourras sortir. Tu défiles demain ? Eh bien, aujourd'hui, on va t'habiller en général pour pas te faire remarquer. Et puis, on fera sortir par la petite porte. » Ce sont deux agents qui nous l'ont ramené, rond comme une bourrique. Un général de 20 ans, sous, ça se remarque. La fouchardière accroche le grelot, je crois dans le merle blanc. « Je veux que tous les généraux aient 20 ans, dit-il, et qu'on respecte la différence d'âge entre eux et leurs troupes. Ce sont les mougins qui se tabasseront aux frontières à coups de polochon. Vive la ligue polochoniste !» Il y aurait eu certainement de grosses sanctions à la clé si le général Rollet, le vrai, n'avait en ri.
« Mais vous étiez toujours à la caserne, le jour de la déclaration de guerre ?»
Nous l'avons devancé. Depuis le 23 août, nous nous trouvions à Juvigny dans la Meuse, désœuvrés. Fallait que ça pète ou que ça casse. Quand nous avons reçu l'ordre de faire creuser une position de repli, déjà, le tarif pour les gars pelle et pioche était d'un mètre cube par homme et par jour de terrain remué. On ne s'occupait pas s'il s'agissait de sable, de roc, de glaise ou de caillasse. Moi, j'étais cartographe et j'observais à longueur de journée la tête des types qui, ayant creusé à plus de 50 ou 80 cm, s'embarbouillaient dans un fatras d'ossements, de casques allemands, anglais, français, d'armes disloquées mais à peine rouillées, de tout ce qu'on veut comme vestige de l'autre guerre non encore mise à jour. Des copains ont imaginé de faire des pyramides de crânes, et l'état-major a trouvé ça indécent. Le plus étonnant est qu'au lieu de se trouver impressionné, dégoûté d'avance, les gars étaient plus que jamais gonflés, à bloc. À la frontière allemande, dans la région de Château-Rouge, nos types continuaient leur terrassement, bien persuadés qu'ils étaient de son inutilité, alors qu'au-dessus de leur tête, sur une sorte d'enclave ferroviaire allemande en territoire français, qui ressemble à notre métro aérien, des Allemands tout goguenards, des civils qui se rendaient d'Allemagne en Allemagne, les contemplaient. C'est ça qui est bon pour le moral. Un jour, le colonel me demande de décacheter, et éventuellement d'utiliser comme il convenait, l'un des premiers plis secrets arrivés de Paris. Pour moi, quel honneur, quelle émotion! C'était une fosse pour 100 cadavres, les plans, tournés SVP. Au verso du document secret, il y avait les indications permettant de transformer le charnier possible en feuillet. Après, pendant l'hiver, 30 degrés sous zéro devant Merten, un village frontalier, région de Sarrebruck. Les patrouilles allemandes et françaises en territoire occupé par l'ennemi empruntaient à peu près les mêmes chemins, mais toujours à des heures différentes. Comme ça, pas de court-circuit, entente tacite. Le premier Allemand que nous avons vu de très près, après l'avoir fait prisonnier, était un terrassier poète, amateur de clair de lune, et qui pissait dans la neige, ravi d'être capturé à si peu de frais. Il nous a appris qu'il était tchèque, amené là bien malgré lui, francophile en diable. J'anticipe avec sa permission, mais je crois rigolo de dire ce qu'il est devenu. Exactement couvé à Bordeaux, au fort du Ha, il a rejoint la zone libre pendant l'occupation, et à l'heure où je parle, il travaille au Hall, bien sagement, marié à une Espagnole. Eux deux et leurs deux enfants sont bien entendu français comme père et mère. Les copains dont j'avais la responsabilité m'ont demandé de simuler un coup de main, bien entendu défensif, afin d'être décoré de la croix de guerre et d'obtenir la perme qui était au bout. Avec la complicité de notre Allemand, nous avons balancé des grenades dans la nature, j'ai commis un rapport outrageusement mensonger, on a décoré mes types, et maintenant, c'est marrant, deux garçons de 22 ans, militaires, fils de mes camarades, viennent à chaque permission rendre visite. Et comme la date de leur naissance, confrontée avec ce que l'on sait des exigences de la génétique, correspond assez bien avec la date d'un certain exploit bidon, je les reçois avec le sourire, un sourire presque paternel.
Et quand l'attaque allemande s'est déclenchée ?
Nous nous trouvions en Champagne. Nous avons utilisé, pendant heureusement peu de temps, je dis heureusement, toutes les armes excellentes, très précises, qui nous étaient confiées. Mais moi, j'en voulais confusément à ceux de mes copains qui tiraient de l'ennemi avec une telle désinvolture, une telle inconscience, alors qu'ils ignoraient ce que moi je savais. Mon absence de scrupules, de remords à abattre un SS me regardait, car j'étais informé de ce qu'étaient vraiment les SS, eux pas. Du 7 au 10 juin 40, devant Rethel, nous avons repoussé les attaques de jeunes fanatiques, certains avaient le torse nu, qui déferlaient sur nous au coude à coude et en chantant. Nous autres, repliés à Sault-Saint-Rémy sur une petite hauteur qui surplombe la retourne, bien retranchée, nous avons fait du tir au lapin, un massacre. Moi, j'étais déchaîné. Je me suis battu même à coups de pistolet, et puis j'ai dû me laisser capturer pour ne pas être défalqué sur place. J'avais pas une égratignure, et comme l'eau était polluée, nous ne buvions que du sang de mouton affolé, égorgé sur place, et nos seuls beefsteaks étaient taillés dans les fesses des chevaux blessés que nous abattions avant de les dévorer sur le champ et tout cru. La nuit même, je rampais, je m'évadais, je repiquais au truc avec des groupes d'isolés d'autres régiments. C'est là que je me suis rendu compte du caractère d'intimidation et rien d'autre des chars. Et le 13 juillet 40 m'a trouvé sonné à Boulle-sur-Suippes, près du petit pont qui m'avait protégé, à plat ventre dans l'herbe, incapable du moindre mouvement, le côté gauche criblé des éclats minuscules des ressorts de montre d'une grenade défensive allemande, la poitrine fracassée, le front ouvert et sonné par un éclatement. Ce sont mes bons amis l'ISS qui m'ont ramassé, placé sur une civière de campagne et laissé à plat ventre, ce qui m'a sauvé, et transporté au Kriegsgefangener Lazaret de Nogent-sur-Seine.
Et tu y as trouvé ?
Une purée de gens. Militaires, civils, les premiers jours français et allemands même pas triés. Moi j'ai pu récupérer très vite, après avoir tout de même contemplé dans l'herbe les insectes, des carabes, des bêtes splendides, qui se régalaient de mon sang tout chaud. Alors que moi j'ignorais si j'en avais pour une heure, un jour ou une semaine. Je suis devenu, à cause des Belges fugitifs qui remontaient vers chez eux, et de l'épidémie de tétanos qui faisait des ravages dans le camp de Romilly, interprète à la Kantonschandort Kommandantur de Nogent. J'ai transformé le bureau de poste désaffecté, les installations étaient détruites, de Nogent, en atelier de portrait. La naïveté allemande, enfin nazie, que je croyais connaître, a donné toute sa mesure. J'ai volé les tampons de la Kommandantur, transformé en infirmier immédiatement libérable les camarades que j'avais sous la main et qui se prêtaient à l'opération. Et le jour où un copain prêtre, qui avait les mêmes initiales que moi, il s'appelait Jean Ibarn, nous a claqué dans les doigts, j'ai changé son livret militaire contre le mien et usurpé son identité. Je pensais à l'avenir.
Mais comment t'en es-tu sorti ?
Un autre camarade de notre Frontstalag est mort, tué par un homme de garde. Gros émoi de toute la population de Nogent. Nécessité de dire à la cathédrale Saint-Laurent une messe solennelle. Pas de prêtre à l'horizon, à part moi. Deux de mes copains curés avaient été libérés par mes soins. Alors j'ai transcrit ce qui restait dans ma mémoire du Virgile de mon adolescence. Je me suis enquis auprès d'anciens enfants de cœur de l'ordonnance exacte d'une messe. Personne de ceux qui étaient là, allemands et français, n'avait assisté à quelque chose dans le genre, à part un certain francophile, l'allemand de Koblenz, qui m'a dit en lousdé « Vous pas curé, vous grosse filou !» Enfin, je m'en suis tiré. Je me suis confectionné, toujours avec les tampons du Hauptmann, un laissé-passer pour « Magne-toi les arpions » en Côte d'Or, ce qui a fait blêmir le chef de gare. Et je suis rentré à Paris, bien décidé à continuer la bagarre. Pas spécialement contre les Allemands, mais contre tous les emmerdeurs, d'où qu'ils viennent.
Joli programme. Nous verrons la semaine prochaine comment tu l'as réalisé.
Lucien Farnoux-Reynaud vous a présenté Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Prise de son Serge Métifiot. Collaboration technique Daniel Raffi. Assistant de production Jean-Pierre Pinet. Lucien Farnoux-Reynaud présente Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Septième émission.
Démobilisé fictif, puisqu'évadé et te sentant toujours en service et au service surtout, quelle première réaction as-tu éprouvée, toi homme en liberté, en retrouvant Paris occupé ?
Je me suis rendu compte, dès le premier jour, que les Allemands n'étaient pas ici chez eux. C'était contre nature. Je me suis senti clandestin dès le premier quart d'heure.
Avais-tu entendu parler de l'appel du 18 juin ?
Ah, je comprends. Là où j'étais, à Nogent-sur-Seine, parmi les officiers et médecins prisonniers, la nouvelle s'est répandue, traînée de poudre. Quel soulagement! Moi, je n'avais jamais entendu parler du général de Gaulle.
Comment es-tu entré alors dans la résistance active?
Ça n'a pas été tout seul. D'abord, nécessité d'avoir des papiers, apparemment en règle. Je me suis fabriqué un titre de libération, Entlassungsschein, injurieusement grossier. Commandant tour, tampon, comme sur des roulettes. Toujours la naïveté allemande.
On a beau être bon dessinateur, on ne se révèle pas faussaire du jour au lendemain. Où avais-tu appris ce nouveau métier?
Je bénis le jour, au cours d'une permission, où j'ai acheté sur les quais, pour 100 sous, le manuel de technique policière du professeur Locard. Il y décrit tellement de trucs, des trucs vicieux, comme on dit, qu'on n'avait que le choix pour reproduire des cachets, des signatures, entre l'œuf dur, la pomme de terre, la pâte à polycopier, le zinc gravé. Alors j'en ai fait, dès mon arrivée ici, une industrie bénévole. On n'est pas marchand de liberté.
Mais comment gagner-tu ta vie?
Mes anciens copains du Parti communiste m'ont découvert un emploi de professeur de français, de dessin, de peu tout, au titre de l'enseignement technique. Et comme je suis tombé dans un cours de coiffure, j'étais breveté de l'État, je suis devenu tout naturellement professeur d'art capillaire. Mais je rongeais mon frein. Je voulais quelque chose de plus percutant, de plus dangereux,
mais
vif.
Mais les communistes, eux, ne t'ont pas fourni l'occasion que tu cherchais de rentrer dans la résistance?
Ils ne sont devenus vraiment résistants qu'à l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'URSS. J'ai eu quand même la chance d'entrer assez vite dans le domaine de l'efficace et d'une manière parfaitement inattendue. J'avais renoué avec quelques-uns de mes rares camarades de guerre qui n'avaient pas été faits prisonniers. Luc Bérimont, que tout le monde connaît, Garaudet, l'architecte, d'autres. Ils m'ont entraîné chez Lippe, où j'ai refait la connaissance de gens que j'admirais depuis bien longtemps. Pierre Béarn, André Salmon, le docteur Mardrus, Léon Paul Fargue et Maurice Fombeur et l'éditeur de Bresse, à qui je soumets, sur le conseil de Bérimont, un recueil possible de poèmes où se mélangeaient le vieux Paris et la guerre et le vieux Paris. Titre « Îlot insalubre », édition immédiate et pas à compte d'auteur, ça aussi c'est incroyable. Article sur 4 colonnes de Marcel Espiau dans Les Nouveaux Temps, le journal de Luchère. Yonnet, poète épique de la laideur. Bleh. Voilà que Pierre-Antoine Cousteau publie dans Je suis partout une enquête intitulée « Les grandes mystifications du demi-siècle » avec pour couronnement ma propre farce de Candide dont lui-même avait fait les frais. J'ai pris le taureau par les cornes, je suis allé voir Cousteau. Quand je lui ai raconté, dans son propre bureau, que je luttais, et de façon sévère, contre les Allemands et contre tout ce que ça représentait, je l'ai en quelque sorte neutralisé. Il l'a écrit lui-même, longtemps après. Une de mes élèves était normande. Ses parents à Pont-Audemer recueillent un pilote anglais, descendu par la flaque. Je prends le gars en charge, je le confie à de formidables braves types, les flics des Halles. Des fonctionnaires, membres de la préfecture de police, bien sûr, mais pas des répressifs. D'autre part, j'avais maintenu le contact avec la femme d'un de mes amis prisonnier en Allemagne. Elle s'occupait des 41 d'une chaîne d'évasion. C'est dans ces conditions que j'ai été incorporé à la plus merveilleuse équipe de copains et des combattants que l'on puisse imaginer. Tous des techniciens. Pilote, radio, ingénieur transmission, agent de liaison, ancien champion cycliste et flic, devenu flic uniquement pour les besoins de la cause. Là, j'étais dans mon élément. Faux papier, cartographie, transmission, évasion, recrutement de gens utiles parce que nous étions rattachés aux forces françaises libres. Pas question de politique.
En somme, vous étiez les espions de votre propre territoire.
Nous faisions du renseignement, de l'information, mais prêts à tous les coups de chien qui dépassaient nos missions. J'étais chef, entre autres, du secteur de Bretigny. Un camp de transit où les appareils venus à vide faisaient le plein de carburant, de bombes et de produits incendiaires qu'ils allaient déverser sur Londres. Destruction complète du camp, hécatombe de SS et d'Allemands fanatisés. Pas une seule victime civile de notre côté. Galtier-Boissière a parlé très pertinemment, à mon sens, dans l'un de ses crapouillots, de la farce des services secrets. Il n'a pas été informé, ce qui est logique, de ce qui se passait dans les services qui tournaient rond. Et d'autre part, mes compagnons et moi, nous avons toujours refusé d'être confondus avec une clique de politicards et d'arrivistes que nous n'avons jamais, jamais approchés, de près ni de loin. Là, j'ai su, en l'observant, ce qu'était le courage des autres. Je n'ai que faire de leurs opinions. Mais notre action, notre collusion avec l'état-major allié, a épargné plusieurs centaines, plusieurs milliers peut-être, de vies humaines qui étaient destinées aux plus imbéciles des sacrifices. J'ai dû, à 3 reprises, me bagarrer au revolver. Une fois dans la rue, avenue d'Alésia, contre des feldgendarmes, j'en ai tué un, j'ai blessé l'autre. Une fois sur la route d'Orléans, j'aime pas me rappeler cette histoire, dont j'ai rendu compte par la suite à Duke Street, au général de Gaulle.
Quelle impression as-tu éprouvée en sa présence?
Je ne saurais trop dire, c'est compliqué. C'était notre chef, tout de même. À Alors que le patron de notre réseau à nous, un homme jeune, tout le contraire d'une culotte de peau, un pilote, un technicien, je voudrais bien dire son nom, mais je ne sais pas si ça lui plairait, eh bien, il nous fallait oublier qu'après tout, nous étions militaires. Il nous faisait oublier ça. Alors que De Gaulle, déjà à cette époque, on l'appelait le vieux, mais avec une pointe d'affection. Moi, je l'ai vu distant, renfrogné, froid, glacé même. Pour lui, nous étions, nous, les dévoués, les confiants, les purs. Nous étions le personnel. Et cependant, il sortait, il émanait de sa présence, de sa proximité, quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup moins inhumain que ce que l'on pouvait ressentir en présence d'Hitler ou de Staline. Pas de comparaison possible. Je ne me suis pas intéressé à son destin, d'aussi près que Malraux, par exemple, mais il y a eu là un phénomène que je n'ai vu exprimer nulle part aussi cru que moi j'essaie de le rapporter.
Mais n'as-tu pas aussi commis un crime parfait ?
Oui, et je n'ai pas considéré ça comme un des beaux-arts. Un Alsacien frontalier, un Français frontalier, Lorraine allemande, s'engage en même temps dans mon réseau comme agent de liaison. C'était en été 44, nous en manquions, et au Sicherheitsdienst, bureau de sécurité allemand. Très maladroitement, il établit une souricière dans l'immeuble que j'habitais, place du Châtelet. J'avais un appartement sous les toits à cause des exigences du groupe Antenne. Les Allemands en uniforme bloquent le rez-de-chaussée. Mon type arrive chez moi, se présente seul. Mais j'avais été averti par ce qui se passait par une prostituée des Halles, une brave fille qu'il avait vue donner des ordres aux gens de la Gestapo. J'avais chez moi le code, assez de documents pour démanteler le réseau, provoquer une catastrophe, même dans le déroulement des opérations. C'était 3 jours avant le débarquement. Je n'avais pas le choix. Je disposais d'un revolver et de 2 grenades, dont une incendiaire. Bien décidé à faire sauter la baraque et moi avec.
Tu étais calme.
Terriblement. Et terriblement lucide. Dur, buté, comme un SS. Ça n'a duré que quelques secondes. Mais maintenant, c'était ce que c'est. Mon type a mis du temps à comprendre. Ça l'a paralysé. Il est devenu vert. Mais vraiment vert. Je n'oublierai jamais les yeux qu'il ouvrait. Je lui ai donné un petit moment pour se recueillir. Une balle dans les reins, une balle dans l'oreille, défalqué. Une minute après, il était roulé dans le balatum de l'entrée. Les Allemands ne l'ont pas vu reparaître. Il n'avait pas reçu d'autres instructions, ils sont partis. Le lendemain, la moitié de mon bonhomme était déposée à la consigne de Montparnasse dans une valise. Le bas du corps à Austerlitz, dans un panier d'osier. J'avais mis la tête dans une grande boîte à bouillon cube. Ça m'a gâché ma réserve de sucre cristallisé, pas loin de 3 kilos. Je l'ai fait expédier depuis Melun, à l'adresse du général Stulpnagel. La préposée du guichet a dit « ça n'explose pas au moins ». Mon agent a répondu « mais non, voyons, c'est de la barbaque ». Moi, je n'ai pas été autrement inquiété jusqu'à la libération de Paris. Me voilà remobilisé comme lieutenant à la sécurité militaire. Entre-temps, je m'étais inquiété de mon cadavre. Je n'ai jamais su ce qui est devenu le torse. Mais on a attribué le reste à un nouvel exploit du docteur Petiot, qui était en fuite. Bon, voilà. Moi, je n'avais pas la vocation militaire, et c'est surtout comme journaliste que j'avais repris du service à la Voix de Paris, directeur Albert Bayet. Or, je m'étais fait l'écho de rumeurs selon lesquelles le fameux Petiot aurait eu des complaisances pour les Allemands. Je publie un premier papier intitulé « Petiot, soldat du Reich ». Et cet imbécile de Petiot prend la mouche, il me fait parvenir une lettre ignorant mes doubles fonctions de journaliste et de membre de la sécurité. Tout serait trop long à raconter ici, grâce à la lettre, où il disait avoir tué tant de gens, surtout des Juifs, seulement pour le compte de la résistance, ce qui était tout de même un peu fort. Ça l'a perdu, on l'a identifié. Faux capitaine à la caserne de Reuilly, arrestation, procès. À l'instruction, j'étais intervenu comme expert pour établir l'authenticité de son appartenance à la résistance. Évidemment, c'était du bidon. On lui reprochait 27 assassinats, il en revendiquait 63. C'est dans ces conditions que moi, le plus étranger, le plus allergique à tout ce qui est police ou mécanisme répressif, j'ai été amené à mettre hors d'état de nuire le plus grand criminel de droit commun du siècle, presque à le pousser sous la guillotine. J'aime pas beaucoup ça. Par ailleurs, lorsque j'étais au service des comptes rendus de mission, mon métier a consisté à me faire raconter leurs histoires par des gens qui avaient vécu des aventures extraordinaires et souvent connu des heures effroyables. J'ai reçu de tels témoignages que pendant des années, j'ai eu honte pour le genre humain dans son ensemble. Je me sentais lointainement une part de responsabilité dans ces horreurs, des horreurs telles que personne n'a osé les rapporter, même au procès de Nuremberg. Mais petit à petit, l'optimisme est revenu. J'ai repris confiance dans une certaine race d'hommes, les effacés, les simples. J'en connais de proprement exaltants par leur savoir, par leur comportement de tous les jours. C'est eux maintenant que je m'applique à décrire, à faire connaître, à réhabiliter dans mes articles, dans mes livres.
Décris-nous donc ce que tu appelles ta consolation dominicale.
Le dimanche, j'aime assez me balader du côté des squares, des jardins, et rôder près des théâtres de marionnettes, à Montsouris, aux Tuileries, au Ranelagh. Et voici pourquoi. Pendant l'occupation et après, entre autres gagne-pain précaires, j'ai sculpté et décoré des têtes de marionnettes à Gaines, que je vendais aux gens de qui c'était le métier d'en faire usage. J'ai fait sur commande beaucoup de poupées à l'effigie de personnages connus, surtout politiques. Tout ce qu'il y avait chez moi de tissu kaki, mes anciens uniformes, a été consacré à l'habillement d'un certain nombre de général de Gaulle miniatures. Le premier que j'ai sorti a été vendu au président Herriot, en même temps que sa propre effigie. Et puis j'ai publié des farces pour marionnettes, des petites pièces courtes, qu'en général, dans les Castelets, on donne enlevées de rideaux. Et quand de loin j'entends les enfants rire à cause de mes poupées que j'ai faites et des farces que j'ai écrites, ça me réconcilie avec l'humanité. Après tout, elle est peut-être pas si moche que ça.
C'est bien une des crises des mois de 50 ans que de jouer aux vieillards désabusés alors qu'ils parviennent à peine au second tournant et que le démon de midi les guette. À Jacques Yonnet, qui connaît si bien le démon de minuit, celui de midi semblera anodin. Nous avons laissé Jacques Yonnet se présenter lui-même, et nos 7 entretiens furent trop brefs pour contenir cette picaresque existence, dont maintes paraissent incroyables. Nous devons constater que par négligente modestie, le personnage s'est effacé derrière les 1001 aventures. Mais elles perdent une partie de leur saveur quand on ignore que le coiffeur pour dames coiffait pour préparer des licences, que le virtuose du canular s'appliquait à devenir historien et fait aujourd'hui autorité parmi ceux de Paris, que le dessinateur des cabarets travaillait dans les académies pour affirmer un talent aujourd'hui d'illustrateur, que ce pianiste de Boui-Boui sculptait d'étonnantes marionnettes, que ce Waldinger de tapis franc était un officier des renseignements, Légion d'honneur, Croix de guerre, Médaille de la Résistance et grand blessé. Il a publié des poèmes, Il est salubre, Chanson à ne pas dormir, Bilan 45, un curieux roman de guerre, Gagne ta guerre, où la sincérité est grande, Enchantement sur Paris, ouvrage mystérieux où le surnaturel le dispute à l'anecdote réaliste. Il prépare, illustré par lui-même, Paris ma légende, et selon des documents, les bas-fonds de Paris dans l'histoire. Il envisage un Paris compté par les enseignes et donne des extraits de son ouvrage à venir, auberges, tavernes et caboulots de Paris, à diverses publications, réservant les tavernes et caboulots de Paris modernes à l'Auvergnat de Paris. Naturellement, il s'occupe d'occultisme, collectionne les objets magiques et prétend que rien n'est inexplicable. Aussi, nous avons de bonnes raisons de croire qu'on retrouvera Jacques Yonnet devant un micro et nous vous disons à bientôt.
Lucien Farnoux-Reynaud vous a présenté Un homme en liberté. Aujourd'hui, Jacques Yonnet. Prise de son Serge Métifio, collaboration technique Daniel Raffi, assistant de production Jean-Pierre Pinet.
Cette série a été diffusée pour la première fois en 1963. Rappelons que Rue des Maléfices, chronique secrète d'une ville, de Jacques Yonnet, est publiée chez Phébus Libretto.